La parole ne pourrait jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigue littéraire de Enoch Guidimet sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes de la web radio Éducation, inconditionnel féru des belles-lettres, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigue littéraire de ce jeudi 2 juillet 2026. C'est un pavé, il n'est pas lancé, il est né. Ce n'est pas le pavé que nous utilisons pour nos routes. Ici, il est question d'un pavé littéraire, un livre de 516 pages paru cette année aux éditions Bénin Livre. Tekonkou, vivre, c'est attendre la mort. C'est une commission littéraire de Roger Ikor Agboroglele, ancien ambassadeur et actuellement le représentant personnel du président de la République, Sherpa, au Conseil permanent de la francophonie. Ce roman, subdivisé en 19 chapitres, est une cathédrale narrative bâtie sur trois piliers, la croyance traditionnelle, la foi religieuse et le destin. Et le titre même est une sentence. Nous avançons chaque jour vers une destination dont nous connaissons l'existence sans en connaître la date. Dans cette émission, nous irons brièvement dans l'entre littéraire de l'épistolier avant d'actionner votre regard sur ce livre qui n'est pas un divertissement. Mais avant, nous allons suivre ce que nous propose Christelle Abailly, c'est bien le cachet littéraire. Christelle, bonjour.
Bonjour.
Vous avez l'air un peu triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Tout va bien.
Tout va bien?
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous me proposez?
Amis des lettres et fidèles auditrices et auditeurs de la web radio Éducation, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du cachet littéraire. Avant toute chose, prenez rendez-vous avec Kodjo Rodrigue Abel à Savedo à partir de 15h le 25 juillet 2026 pour le lancement officiel de son livre « Dieu trace droit avec des courbes » paru aux éditions Essaim Plume à l'Institut français de Parakou. Habitants de la cité des Kobourou et des environs, venez honorer de votre présence cette grande messe littéraire. Changeons à présent de registre pour aborder un thème plus intime et tout aussi bouleversant. Dans notre quotidien, ce sont généralement les humains ou les animaux qui deviennent orphelins, soit de père ou de mère, soit des deux. Mais qu'en est-il lorsqu'une partie du corps humain, en l'occurrence le ventre, devient elle-même orpheline? Peut-on parler d'un ventre orphelin? Et si oui, de qui ou de quoi est-il privé? Une image forte qui peut faire écho à la stérilité et aux difficultés de conception chez la femme. Une réalité sociale qui mérite toute notre attention. Mais est-ce vraiment ce sujet qu'aborde Sefou Dine Oloufadé dans son œuvre? Vous êtes invité à rester à l'écoute de la parution du livre « Ventre orphelin » qui sera bientôt disponible et intégrera prochainement le catalogue des éditions Bénin Livre pour en savoir plus sur son contenu. C'est tout pour ce numéro du cachet littéraire. Merci de votre fidélité et surtout, demeurez passionnément littéraire.
Merci Christelle, merci de nous avoir abreuvé de ces actualités littéraires. Je l'avais annoncé plus haut, aujourd'hui nous recevons Roger Ikor Agboroglele, écrivain. Il est diplômé de l'Institut des ingénieurs économistes de Saint-Pétersbourg en Russie. Vous aurez l'occasion de l'écouter. Mais avant, nous allons prendre le pouls de la Russie.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducation.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour faire le commerce des idées, des mots. C'est avec Roger Ikor Agboroglele, économiste et diplomate. Il est l'auteur de 4 livres avec à la clé 2 prix littéraires. Il a reçu en 1995 le premier prix du concours littéraire Regard croisé sur le Bénin avec son livre Il était une fois la crise. 24 ans après, donc en 2019, il est sacré grand prix littéraire du Bénin dans la catégorie nouvelle avec son livre Le traquenard amoureux paru aux éditions Plume Soleil. Aujourd'hui, il revient en librairie avec Tekonkou, vivre c'est attendre la mort. Un roman qui nourrit une tension narrative avec une forte dose de suspense. Roger, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Vous avez 4 livres à votre actif et 2 prix. Dites-nous quel est votre secret. 2 prix, 4 livres.
Le secret, c'est tout juste le travail bien fait. Bon, pour écrire, il faut avoir d'abord la passion d'écrire. Et quand on est passionné par quelque chose, on essaie de faire des recherches, apprendre pour bien écrire. Donc, je l'ai dit. Je dis souvent aux jeunes qui m'approchent, qui me demandent comment fait-on pour écrire. Je leur dis que nous, nous avons commencé. Vous savez, je n'ai pas un parcours de littéraire.
Ça, c'est
j'ai un parcours de scientifique, mais quand j'étais au lycée technique Koulibaly, nous, les jeunes de cette période-là, on était à l'ANES de centre culturel français à Maro Militaire. Et les professeurs de français nous encadraient. On avait des groupes, c'est volontaire. On vient s'inscrire pour apprendre le français. Et à ce moment-là, les professeurs nous donnaient des livres, des auteurs africains. Et que dans nos groupes, on étudiait, on venait exposer. Et nos camarades du centre culturel français à l'ANES nous posaient des questions. Et comme ça, le fil à aiguille, bon, moi, j'ai bifurqué, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le doyen, le monument de la littérature, Jean Pliard.
Père à son âme,
mais à ce moment-là, il avait encore un peu du temps, il n'était pas encore berger national. Et nous, on allait le voir à la maison, au route de l'aéroport là-bas, pour lui demander comment est-ce qu'il pouvait faire pour bien écrire. Il nous a donné quelques rudiments.
Quels sont les rudiments qu'il vous a donnés, cher
Jean Pliard nous a dit, pour écrire, il faut commencer d'abord par être simple, sujet, verbe, complément.
Ah bon?
Oui, sujet, verbe, complément. Et il dit, pour désigner une chose, d'écrire en français, le mot existe. Tant que tu n'as pas trouvé ce mot propre, tu continues à écrire. Tu peux écrire la même phrase.
Tu reprends.
Plusieurs fois. Je me rappelle que nous qui étions là-bas, on était tous locuteurs fonds. Et il nous a dit, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. On dit, avoir à Blomont et Tindéo à Nassokpa. Quand on dit ça maintenant, que tu traduis en littérature, dit, si tu fais un tout comportement là, quand quelque chose, tu as responsabilité, tout à coup, ce n'est pas encore ça. Il faut chercher. Et tu finiras par trouver le verbe endosser. Endosser, que c'est ça. Donc, c'est pour vous dire. Donc, on a continué comme ça. Donc, je me faisant ça, m'a amené à la collaboration. Et on le ressent dans mes écrits. Parce que j'ai commencé par écrire véritablement pour le magazine Amina, où j'écrivais les nouvelles et les romans photos.
Alors, Tekpankou, vivre, c'est attendre la mort. Tekpankou, à lui seul, est significatif. Pourquoi faut-il ajouter vivre, c'est attendre la mort, alors que les deux semblent se rejoindre?
D'accord. Je vais dire ceci d'abord. Pour écrire un ouvrage, en tout cas pour moi, ceux qui me lisent savent que, mis de côté ma partie amour, parler de l'amour, d'écrire l'amour, que j'ai hérité de mes plus de 15 ans d'activité avec le magazine africain Amina, où on devait écrire toujours sur les sujets d'amour, les histoires d'amour. C'est ça qui fait que mes nouvelles parlent souvent d'amour. Mais maintenant que je me suis dit que je m'intéresse pour la littérature, je vais toujours dans, je plonge ma plume dans ma culture et je la révèle. Et vous allez voir que mes romans partent toujours des réalités de chez nous, des réalités de la culture fond. Et tu dis, pourquoi Tekpankou? Et pourquoi j'aimais, et après vivre, c'est attendre la mort. Je viens d'une culture où on nous a appris très tôt. Tout dans notre culture nous apprend à faire face à la réalité de la mort. On vit la mort afin de bien vivre la vie. On l'accepte d'abord, après de vivre la vie. Quand vous voyez, quand vous entendez par exemple, on dit Djokbenou. Djokbenou, c'est un nom authentiquement d'Abomey. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire, le roi est en train de dire, a dit ça. C'est un nom, on n'est pas le roi Congo. Quoi Djokbenoué? Quoi Djokbenoué? Ça veut dire. Donc, nous, on est préparés à la mort. C'est pour cela que notre vie, on vit. Quand vous entendez Don Huédé, qui est d'Abomey, on les appelle aussi les Aditona. C'est la même famille qu'on appelle Aditona. Quand tu dis ton Huédé, ce ton est Huédé, quoi est Huédé, comme ton Huédé. Donc cela veut dire que, c'est pour vous dire ceci, ça veut dire que nous, on vit pleinement la vie parce qu'on accepte la mort, on fait face à la mort. Mais maintenant, pourquoi j'ai mis, je voulais rester sur Tekpankou.
Simplement.
Simplement.
Oui.
Mais mon précédent roman, c'était Sebla Mekor.
Oui,
Sebla Mekor. C'est un roman qui est allé sur Amazon, hein, c'est 5 étoiles. Mais beaucoup, ceux qui ne sont pas locuteurs font, qui ne comprennent pas le fond, ça les intrigue. Ça les intrigue beaucoup. C'est parce que, connaissant le nom ou bien l'auteur, que à Nation, c'est un très bon roman. Et je me suis dit que, dès cette fois-ci,
compléter
et dire ce que tu. Tes concours, ça veut dire quoi? Tes concours, enfant, ben, milieu, t'es milieu, concours.
D'accord. Voilà. Alors, on a vu Nat sur la première de couverture. Qu'est-ce que cela représente? Est-ce que c'est la date de l'oracle, la date où il faut s'apprêter pour mourir. Qu'est-ce que cela représente exactement?
La date représente plusieurs choses que tu viens de dire. La date pour l'oracle, ici, quand le boucan vient, le boucan s'assoit en bas sur une chaise ou un tabouret pour faire sa consultation. C'est toujours sur une natte que le boucan s'assoit pour faire la consultation. La natte, dans la tradition, la natte, tu sais, avant qu'on ne change les jantes, c'est dans la natte qu'on enroule le défunt, le mort, et pour l'enterrer. Donc, il y a toute cette signification. C'est pour cela qu'on a dit, c'est une façon de représenter la mort que de mettre la natte.
Alors, le déclic de l'histoire et la consultation du Rufa, un rituel annuel que Nan, l'Edeme, la tante de Sylvestre, fait sous la coupole de Da, Foïsedoku, détenteur du savoir oraculaire, le Védit n'est guère réjouissant. Il n'a plus que 9 jours à vivre. Suivons avec la complicité de la régie cet extrait de la page 14.
Page 14. Relou, relou, ce qu'on m'a montré est inénarrable. C'est indicible. C'est inexprimable. Mais on m'a dit de le dire. On m'a dit de le dire.
Répétait-il d'un air effrayé, le visage hideux. Son expression faciale devint simiesque lorsqu'il lécha plusieurs fois le gros talisman qu'il portait en sautoir autour du cou. Il jeta un regard circulaire dans la salle, prononça quelques incantations sourdes et, d'une voix étouffée, dit
« Jeune homme, quel âge as-tu ? »
À présent debout, impatient, le regard fulminant de Sylvestre croisa celui de Da, Foyer Sedoku. Comme deux lutteurs traditionnels dans l'arène avant le combat, leurs yeux s'affrontèrent un moment. Puis, sèchement, Sylvestre retorqua.
« Qu'est-ce que mon âge a à voir avec vos pitreries ?»«
Jeune homme, tu sembles avoir tout ton avenir devant toi. Malheureusement, on m'a dit de te dire que d'ici 9 jours, 9 jours bien comptés, tu ne seras plus avec nous. Tu ne seras plus de ce monde. »
L'ambiance passa de craintive à stupéfaite. L'onde de choc de cette effroyable prédiction avait littéralement irradié Nan Ledeme, qui tomba à la reverse, les bras allongés sur les accoudoirs de son siège, si secoué qu'elle respirait avec peine, son visage perlé de sueur. Debout, Paulin se dandinait ostensiblement, tel un épouvantail secoué par la brise. Ses sœurs, toujours assises, se collaient l'une à l'autre, telles deux filettes abandonnées dans une forêt, résonnant des rugissements de lions. Le silence devient sépulcral, feignant de ne pas comprendre le sens de ce que Da Foyer Sedoku venait de prédire. Sylvestre le rompit avec ironie.
Où serais-je si je n'ai en perspective aucun voyage?
Alors, c'est une prophétie, c'est une sentence. L'ironie de Sylvestre est-elle du courage, du déni ou du mépris pour la tradition?
Dans un premier temps, il a eu ses propos ironiques parce que c'est le genre de jeune homme qui, sans renier la tradition, ne croit pas à tout ce qui se faisait autour de lui. Sa tante, c'est la petite sœur à son grand-père. Et qui respectait beaucoup, mais il n'est pas accroché. Ce n'est pas Sylvestre, ni véritablement la tradition, ni aux religions révélées, parce que ce n'est pas celui qui se laisse le dimanche pour aller à l'église. Donc c'est quelqu'un qui, bon, il est dans le monde comme ça, il ne croit pas trop. Donc lui décréter, il n'y a rien de cartésien dans ce qu'on venait de lui dire, de révéler. Il n'y a rien de cartésien, et c'est un grand cadre. Donc lui, tu dis que ce gars-là, c'est un griffonneur, un gribouilleur qui veut gagner de l'argent. Il a vu un jeune qui est venu, il va dire quelque chose pour lui leur soutirer de l'argent. D'ailleurs, il a compté dans la même direction dans ses propos.
Mais est-ce une façon de reprendre le pouvoir sur le destin, même pour 9 jours? C'est sa réaction?
Non, là, lui n'a même pas encore... Il s'est même pas dit qu'il a perdu le pouvoir sur le destin. Et à l'instant, là, il ne croyait à rien de ce que disait le vieux. Pour lui, le vieux faisait de la comédie. Et la bonne preuve, il a cherché à partir. Il dit, mais moi, je n'ai pas mon temps. Je vous laisse, moi, je ne suis pas.
Alors, vous dites à la page 11, le fa est la croyance présidant au destin de l'homme.
Oui.
Quels sont les fondements du fa?
Les fondements du fa, je ne veux pas rentrer dans la polémique qu'il y a actuellement sur les fondements
non,
du fa.
Non,
le fa, c'est quelque chose que nous avons héritée et est propre à notre culture, à une croyance qui est, et nous pensons que le fin est divin. Quand Dieu dit, ça vient de Dieu. Parce que si Dieu ne voulait pas, il n'allait pas donner cette connaissance-là à cette partie. Parce que quand on recherche très bien, ça remonte jusqu'à l'Égypte antique. C'est venu au temps romain par le Nigeria, mais c'est parti de l'Égypte. Vous faites une recherche sur le phare, vous allez voir que c'est, ça part de, depuis l'Égypte pour atterrir au Nigeria et après venir au Bénin. Et c'est cette manière, par cette manière-là que le Créateur, si, pour ceux qui croient, a donné à notre communauté-là de essayer de faire des prédictions et voir ce qu'il faut pour nous accompagner dans la vie.
Alors aujourd'hui, voilà, le Fa occupe une place de choix au Bénin. On voit Tofa chaque année. Que pensez-vous de cette consultation annuelle?
C'est une très bonne chose. Le Tofa est venu au Dahomey comment? Pourquoi le Tofa est venu? Et le Fa d'abord. Le Fa est venu au Dahomey sous le roi Agadia. Bon, comme ils étaient, nous étions proches, bon, il y a les pratiques qui se faisaient. Mais c'est quand Agadia, ayant pris la place de sa sœur Rangbe, parce que le Dahomey, vous savez, ne voulait pas qu'une femme soit reine, et elle a régné pendant 3 ans, et elle a dit non, on ne veut pas d'une femme. Et on l'a enlevée. En partant, elle a maudit le royaume. Et Agadia, quand Agadia a pris le pouvoir, les problèmes ont commencé. Et il y a eu une sécheresse terrible, tout, rien ne marchait. Le roi a tout fait, ça ne marchait pas. Et quelqu'un lui a dit, mais moi j'ai des connaissances, un ami au Nigeria, appelant la rescousse. Et c'est comme ça que celui qu'on appelle aujourd'hui Tissa, son aïeul est venu ici, on l'a envoyé. Et à ce moment-là, le roi d'Abomey restait à Kana. C'est Kana le siège. Et le premier phare a été fait à Kana.
Alors,
donc, aujourd'hui, ça, on fait pourquoi? Pour voir qu'est-ce qui va se passer pour l'année. Comme on fait le Tofa, on fait le Tofa, on fait le Khuifa au niveau privé pour une personne.
Mais aujourd'hui, quand on fait le Tofa, en dehors de ce qui est dit par les voix les plus autorisées, on constate au sein de nous qu'il y a d'autres prêtres Fa qui ont des interprétations différentes.
Qu'est-ce que vous appelez voix les plus autorisées?
Je parle du comité de Kidourvodou, ceux qui font la consultation devant le chef de l'État.
Il y a les meilleurs Bourgogne. Moi, je suis un initié. Je suis un Bourgogne, moi.
Ah, moi, je ne sais pas.
Je suis un initié.
S'ils sont choisis là-bas.
Non, je ne dis pas que moi.
S'ils sont choisis là-bas, c'est parce que certainement qu'ils ont la voix au chapitre.
Quand je dis que je suis Bourgogne, ce n'est pas que je peux faire la consultation. Non, je n'ai pas.
Pas ici. Il n'y aura pas de consultation ici.
Non. Mais je suis allé, j'ai le poli. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas être Bourgogne. Mais si vous dites ici, nous pouvons être allés à l'école et avoir le même parcours, les mêmes enseignants de la classe de CI jusqu'à la classe de CM2, par exemple. Mm-hmm. Mais quand vous les prenez, on ne retient pas les mêmes choses.
Effectivement.
Quand
on n'a pas le même quotient intellectuel.
Le Fa ne ment jamais.
Alors, comment vous interprétez ceux-là qui sont dans la population, mais qui interprètent d'une autre manière ce qui a été projeté à la population?
Ah oui, je ne les accuse pas systématiquement. Parce que le Tofa tel que c'est fait aujourd'hui, je ne veux pas citer les années, il y a des années où le Tofa tel que le comité dont vous parlez, ils me connaissent, mais quoi? Non, on ne peut pas dire le Fa, nous sommes dépositaires du Fa. Mais le comité dont vous parlez, tel que ils ont interprété les signes qui sont sortis, on a interprété pour faire plaisir. On n'interprète pas le père pour faire plaisir aux gens. Non, on interprète le temps tel que ça doit être.
Il y a des non-dits.
Bien sûr, je ne le dis pas toutes les années, soyez clair.
Oui,
j'assume tout ce que je dis. Je dis qu'il y a des années où on interprète pour faire plaisir. On n'interprète pas le Fa pour faire plaisir.
Et vous interprétez pour dire la vérité, n'est-ce pas?
Non, c'est pas moi. C'est pas moi, je le suis. Quand je dis que je suis Boukono. Et vous êtes du Bénin, il faut qu'on vous explique. Il y a, et c'est Fa, prendre le Fa pour voir qu'est-ce qui m'a destiné. Mais, ayez poli. Et ils jouent poli. C'est le niveau supérieur. Les femmes ne font pas ça, ce sont les hommes qui font ça. Moi, j'ai fait ça. Une fois que tu as fait ça, tu peux être Bourgogne. Tu peux te faire être Bourgogne. Mais je ne suis pas un Bourgogne. Mais je travaille dans, pour un groupe, je suis en train de faire un travail. Poussé sur le phare où tu travailles avec un collège de Bourgogne. Plus de 15 Bourgogne, on travaille sur les signes, les situations, etc. Je connais beaucoup les signes du phare, que ce soit du côté Yoruba ou du Fou. Je vais résumer, te dire ceci. Vous êtes journaliste, observez les choses. Le Tofa est une très très bonne chose. S'ils prennent l'engagement de révéler et de dire véritablement ce qui est sorti. Il y a des gens qui, sans le savoir, le font parce qu'ils n'ont pas cette maîtrise dans le signe. Parce que c'est 256 signes. Hein. Pour maîtriser les 256 signes, il faut être quelqu'un. C'est pour te dire ça. Ça là-dessus, je suis catégorique, comme on appelle n'importe où, je le dirige.
D'accord. Auditeurs et auditrices de la Web Radio, Éducation, puisque nous parlons de Tepunku, je vous invite à écouter cette musique de l'intemporel, Saburan Danialou. Écoutez. Retour en studio pour continuer notre randonnée littéraire avec vous et Roger Ikor Agboro-Glele. Il est l'auteur du roman Tekpankou, vivre c'est attendre la mort. Le thème de ce numéro est Tekpankou entre attente et sursis. Alors on constate que Sylvestre a compris que l'enjeu est de taille, la peur s'est installée en lui. Il fait une volte-face, une programmation neurolinguistique. Pourquoi la mort fait autant si peur aux hommes? Pourquoi vous souriez?
La mort nous fait peur parce que nous ne sommes pas encore parvenus à introduire cette philosophie-là, cette compréhension de la mort qui a dit que le jour où tu nais, tu es déjà assez vieux pour mourir. Donc il faut savoir que nous cheminons, la vie et la mort vont ensemble. Donc il faut l'accepter. C'est pas une résignation, mais il faut dire que c'est inéluctable. Et c'est pour cela que je le dis pas parce que si on me le dit, moi, vous allez mourir, je vais dire.
Quelle est votre relation avec la mort?
Ma relation avec la mort, je crois que vous avez posé la question. Mais c'est dans ce chemin-là, moi j'ai compris qu'on est né. Quand on est, on doit mourir. On doit mourir. Cela va dire que je vais aller m'étaler sur le goudron pour dire que le vécu va me tuer. Si quelque chose arrive ici, tu es peut-être la première fille. Cela ne veut pas dire que. On dit que. Je l'ai écrit là-dedans. Le gibier qui fuit le chasseur n'est pas un gibier poltron. Ou bien, c'est pas parce que tu ne crées pas la mort et que quelqu'un prend l'âme. Si tu es
plutôt de
fuir,
tu te
procédures à dire tu vas commencer par fuir d'abord. Ouais, ouais. Si tu abats, tu dois savoir que ton chemin s'est arrêté là. Il faut que nous comprenions que d'une manière ou d'une autre, nous devons mourir. Mais ce n'est pas facile. Quand on te le dit, par exemple, si c'était un médecin qui te le dit que tu vas mourir dans 9 jours, tu vas te dire dans le premier temps, non, il a fait un mauvais diagnostic. Peut-être qu'il va revenir chez moi. Je vais changer de médecin. Je vais faire ceci. Sylvain n'était pas confronté à cela. Il est confronté à quelqu'un qui a toujours fait tes prédictions. Mais quand il les fait, ça se réalise toujours. 3 ans plus tôt, il avait fait une prédiction pareille dans la famille. Pour son oncle.
Ça s'est réalisé.
Et ça s'est réalisé. Tel qu'il a dit, face à ça, comment tu peux... Tout le monde, moi, je vais avoir... Je sais pas même si je vais passer la nuit sans mourir. Parce que la crainte seule peut te faire mourir.
On vient d'écouter une chanson de Saboran, là, où je crois il y a l'une des paroles, une parole métaphorique, où il dit que... Il suggère que nous devions faire amis avec la mort qu'avec la divinité. Oui. Comment vous voyez cette phrase aussi dense?
Je connais sa chanson, il a même chanté parce que on est avec les vaudous, on est avec Jésus, mais à l'arrivée de la mort, ni les vaudous ni Jésus ne nous sauvent.
Donc il est mieux de faire ami avec la mort.
Faire ami avec la mort, c'est une métaphore. Il le dit comme ça, pour faire ami avec la mort. À moins qu'on crée un culte de la mort, tout le monde commence par célébrer la mort, vous dites, on va à l'église de la mort et puis on va là-bas. Vous le dites, quelqu'un de mon matin va vous dire qu'il y a l'église de la mort, de venir là-bas et vous allez vivre plus longtemps.
Alors, qu'auriez-vous souhaité, c'est une question très sensible, après votre décès?
Moi, ce que je veux souhaiter, qu'on retienne de moi ou bien... Moi, la fois à mort, moi, là où je suis chef de la collectivité Glele Agboro. Étant cela, moi, je sais que si je meurs, je dois être enterré dans la même journée. C'est plus rapide que chez les musulmans.
Très rapide.
C'est plus rapide que chez les musulmans. Parce que tant que tu es sur le territoire national et tu meurs, c'est que s'il y a des enfants qui sont à Lomé, ils sont là, ils risquent de ne pas te voir. De le voir sur la terre. C'est à présent. Donc, pour cela, quand tu as une position pareille,
on est prêt à tout. Je pense que vous avez amené à écrire le livre là.
Ouais,
parce que vous attendez la mort.
Non, je ne crains pas la mort. Je te dis, quand je ne crains pas la mort, je ne dis pas que je vais aller me coucher.
Non, j'ai compris. Alors, dans votre livre, la mort côtoie les pages, la mort frappe les pages. Et ça là, c'est sous le contrôle de Dafo Issedoku. Vous avez construit un suspense dense qui ne laisse aucun lecteur indifférent. Vous nous amenez à la rencontre du pasteur Célestin. Avec ce pasteur, vous donnez à réfléchir sur le syncrétisme religieux. Alors, un pasteur qui a vraiment foi en Dieu, peut-il se rendre chez un prêtre de fa qui plus est da foi sedoku pour négocier ses services?
D'abord, je veux te dire, le livre n'est pas une chronique de l'agonie ou bien de la mort.
Non, on sait.
Donc, quand on lit, c'est un livre que tu lis tu es content.
Les lecteurs vont découvrir.
Il ne faut pas croire que c'est une chronique de la mort. On se demande, mais pourquoi on parle de la mort? Parce que, à tout moment, tu es en train de rire. Parce que, tu as répété, mais tu as ri. Donc, ce n'est pas une chronique de la mort. Mais maintenant, La littérature doit se coller à la réalité. Nous vivons une réalité ici. Et c'est ça qui est que depuis, il y a le syncrétisme. Vous savez que le roi Guézo a été baptisé. Hein? Donc nous avons accepté la religion importée. Il a été baptisé, il a accepté. Vous êtes allé une fois à Abomey pour voir là où se trouve l'église Saint-Pierre, Saint-Paul.
Non,
c'est collé au palais du roi Guézo. Il a donné la place derrière son palais. L'église, c'est la plus grande cathédrale d'Abomey. Donc, c'est pour vous dire que nous...
Que vous encouragez le syncrétisme religieux.
Non, attends. Je viens là-haut, tu m'as... Nous avons accepté cette église-là. Mais il y a quelque chose. C'est pour dire que aujourd'hui la plupart de ces jeunes-là, je ne dis pas tout ce que l'église va dire, ils aussi, ils ont adopté le milieu, ils sont dans le milieu, ils parlent de Jésus, mais ils ne parlent pas de Jésus sans ces vieux-là. Je ne sais pas si vous avez tout dit, c'est sur Kakou Maouyon qui l'a dit à l'Assemblée la dernière fois.
J'ai suivi.
Ces vieux-là, pour qu'il y ait de la population dans ces églises-là, hein, je vais vous dire quelque chose aussi. Moi, j'étais en classe de seconde. À l'étoile rouge, je ne veux pas appeler l'église. Et à 13h, on est venu voir le devancier en train d'enterrer quelque chose avec le vieux et les fidèles sont venus le voir. Nous sommes au Bénin. Nous n'allons pas parler. Nous acceptons leur église. C'est pour cela que je ne veux pas que certaines églises, par leur déclaration, nous amènent à faire la guerre des religions au Bénin.
Non, on n'ira pas sur ce sentier-là. Je vous vois venir.
Ouais.
On n'ira pas là-bas. On est en train de finir l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui ont envie d'emprunter le chemin de l'écriture pour vraiment se faire désirer autant dans le milieu littéraire?
Non, qu'on va commencer par remercier des organes comme votre organe.
Éducation.
Oui, parce que avec ce qui se passe, on a vraiment peur.
Peur de la mort?
Non, pas de la mort, pour l'avenir de intellectuel et littéraire du Bénin. Nous, moi...
Vous avez peur de la mort des livres?
Les enfants aujourd'hui ne veulent plus lire. Ils préfèrent tapoter sur les claviers, faire TikTok, faire tout ça. Mais vous voyez que si, par exemple, vous avez pu avoir un grand prix en critique littéraire, tout ça là, c'est votre parcours, votre formation. En notre temps, il n'y avait pas de télé. Aujourd'hui, viens à la maison, mon petit-fils, du matin au soir, il est devant la télé.
Oh là là.
Qu'est-ce qu'il va apprendre? Donc, c'est pour vous dire que nous, on a peur et que c'est à des émissions comme les vôtres qui vont arriver les enfants. Priya nous a dit, pour écrire, il faut beaucoup lire.
Beaucoup lire, d'accord. Une phrase pour conclure, parce que vous êtes très inspiré là. Une phrase pour conclure là. Bon, vous n'avez pas envie
de
conclure.
Nous allons continuer la lutte, le combat littéraire maintenant que nous sommes vers la retraite, combat littéraire pour que le Bénin rayonne. Parce qu'avant, quand on allait dans les séminaires, on dit « Ah, on veut faire un rapport, appelez les Béninois et les Sénégalais. C'est eux qui écrivent le bon français. »
Alors, j'ai bien envie de continuer le débat, mais bon, le temps est passé. Est-ce que Sylvestre, à qui on a prédit la mort, qu'il est décédé, est-ce qu'il est en vie? Auditeurs et auditrices, prenez le livre pour savoir de quoi cela retourne. À travers cette histoire, Roger Ikor Agboroglele ne raconte pas seulement le destin de Sylvestre. Il nous convoque devant nos propres peurs, la peur de mourir, la peur du destin, la force de nos croyances, le conflit permanent entre modernité et tradition, la foi et par-dessus tout le sens même de notre vie. Tekonkou, Vivre, c'est attendre la mort, n'est pas un roman, il est une méditation. Ce livre est un miroir tendu à chaque lecteur et ce miroir pose une seule question, mais elle est immense. Si nous savions avec certitude le jour exact de notre mort, comment choisirons-nous de vivre? Avant de mettre un terme à ce numéro de votre émission, il me plaît de partager cette citation du philosophe allemand Martin Heidegger dans son livre « Être et temps » paru en 1927, je n'étais pas encore né, il dit, je cite, « Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir ». Fin de citation. Quant à moi, je dirais à mon tour, le livre « Un débat avec Eba » entre le lecteur et l'auteur. Judas Beyanzin Awagbe, Ferdinand Zamba, Jean-Marie Arrotondi, Franklin Gbeignon, Christelle Abaye et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Ferdinand Zamba a assuré la manipulation technique, réalisation. Judas Beyanzin Awagbe, la coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arrotondi. Au micro, je suis Enoch Guidimé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Vigue Littéraire, comme on le dit en fond et d'abord.
La virgule littéraire.
La virgule littéraire. La virgule littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La virgule littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc'Action.